à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnelle et professionnelle et je suis ravie à chaque épisode de vous voir de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Le principe est simple, maintenant vous l'aurez compris, j'interview des personnes sur des sujets très variés pour vous inspirer et vous apporter une vision nouvelle que vous pourrez appliquer à vos propres situations de vie. Ensuite, je partage également avec vous des outils plus théoriques de développement personnel que je pratique et que j'utilise dans le cadre de mon activité de coaching. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et enfin, je vous suggère de me faire vos feedbacks pour me permettre de faire avancer ce travail ou me proposer des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode. À la différence des autres épisodes, celui-ci est un peu plus court que les autres. J'avais en fait tout simplement envie de tester un format un peu plus court. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez de votre côté. J'ai eu le plaisir de rencontrer Julie Dubois-Dumont qui a écrit le roman La Cabine. Et ce que je voulais vous préciser, c'est que si j'ai eu envie de la rencontrer, elle précisément, parmi tous les jeunes auteurs qui existent, c'est non seulement pour vous dire qu'il est important de réaliser ses rêves, ou en tout cas d'essayer, que dans l'absolu tout est possible, mais aussi parce que vous allez découvrir qu'au travers de l'écriture de ce livre, il y a aussi une vraie histoire derrière, une histoire de vie douloureuse initialement, qui est finalement devenue une opportunité, un cadeau, et je trouve ça assez magnifique d'avoir réussi à en faire une force et une motivation. Finalement, ce qu'on apprend de cet échange, c'est que quand on donne un sens à ce que l'on fait, une raison d'être à ce que l'on vit, même pour les événements les plus dramatiques, les choses peuvent parfois prendre une tournure un peu plus douce et les rêves peuvent se réaliser d'une manière ou d'une autre. Mais je vous en ai déjà beaucoup dit, je laisse place à ma discussion avec Julie Dubois-Dumont et je vous retrouve à la fin de cette interview. Bonjour Julie.
Bonjour Catherine.
Comment ça va ?
Bien, merci.
Bon, écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer déjà par te remercier d'être ici aujourd'hui et d'avoir accepté d'être mon invitée sur le podcast. C'est vraiment un grand plaisir pour moi que de pouvoir échanger avec toi.
Et ben merci à toi, moi c'est un honneur de participer.
Eh ben écoute, c'est parfait, on devrait passer un bon moment. Et vraiment, juste avant de commencer, je voudrais te poser une première question. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, commencer par te présenter, nous dire... qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais?
Alors, je suis Julie Dubois-Dumont, je suis dentiste et mariée et maman de deux filles de 13 et 6 ans.
Très bien, c'est déjà beaucoup.
Bonne occupation, voilà.
Ok, et il me semble que très récemment tu as réalisé un de tes rêves, c'est
oui,
ça?
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît, parce que là c'est vraiment ce sujet particulièrement qui va m'intéresser aujourd'hui.
Eh bien, j'ai écrit un roman qui a
été... Ton premier roman,
mon premier roman, voilà.
D'accord.
Grande première pour moi, qui a été publiée. Un rêve.
Et donc voilà, c'est ça. C'était un rêve pour toi de publier...
J'ai toujours rêvé d'écrire, etc.
D'accord.
Publier, je sais pas, mais en tout cas écrire.
Donc ce rêve s'est réalisé.
Oui.
Alors, est-ce que je peux te demander ton âge, juste pour...
Oui, préciser... j'ai 40 ans.
D'accord, donc tu as réalisé ce rêve à 40 ans.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce livre? De quoi ça parle? C'est un roman? Quel type de roman? Alors, sans nous dévoiler, bien sûr, toute l'histoire, mais est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, c'est un roman qui s'appelle La Cabine. C'est l'histoire de trois adolescentes de 13
D'accord.
ans qui sont très très différentes, qui ne se connaissent pas du tout, qui vont passer leur été à Cailleux-sur-Mer, sur les côtes picardes,
D'accord.
chez leurs grand-mères respectives. Le hasard fait qu'elles se rencontrent et elles vont partir toutes les trois à la découverte d'une mystérieuse vieille dame qui les contacte sur Skype. Voilà, c'est difficile d'en dire plus. Si j'en dis plus, je vais pas toute l'histoire.
D'accord.
Voilà.
Et cette histoire-là, comment elle t'est venue? C'est une histoire vraie que tu as vécue ou non?
Pas
ça,
du
ça
tout, pas du tout. Ce sont des personnages complètement fictifs, inspirés forcément, des petites touches quand même personnelles, parce que quand on écrit, on met un petit peu de soi dans nos personnages, je
D'accord.
pense, inévitablement. Non, en fait, c'est venu tout simplement parce que j'ai voulu écrire une histoire qui se passait à Cailleux-sur-Mer, et je voulais que l'histoire soit basée sur les rapports entre les petites filles et les grand-mères.
Pourquoi cette attirance par rapport à Cailleux-sur-Mer?
En fait, l'histoire, c'est que c'est un roman que j'ai écrit pour ma belle-mère. Quand on a appris qu'elle était gravement malade, elle lit énormément, elle aussi, je voulais lui faire quelque chose,
mm-hmm.
mais je me suis dit, j'ai toujours rêvé d'écrire, c'est le moment, la vie est trop courte, on repousse toujours nos rêves, allez, go, je commence. Et donc, comme c'était pour elle, initialement, vraiment, et qu'elle passe ses vacances à Cailleux-sur-Mer, c'est un endroit qu'elle aime particulièrement.
D'accord.
Voilà, j'ai voulu utiliser ce décor. Et puis, bah, forcément, les petites filles et les grands-mères, puisqu'elles s'occupaient beaucoup de mes filles, ces petites filles. Donc, Cailleux, les petites filles et les grands-mères.
L'histoire, le roman lui-même, il vient de ça.
Voilà.
De cette volonté d'écrire une histoire pour elles.
Exactement.
Donc, c'est à la fois un rêve pour toi et à la fois...
Un cadeau.
Un cadeau
exactement.
Pour une personne qui t'est chère. Et au-delà de ça, comment t'en es venue à l'écriture? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu écrire un roman?
Difficile de dire. J'ai toujours aimé lire et j'ai toujours voulu moi aussi raconter des histoires. J'ai plein d'imagination. J'ai toujours voulu raconter, écrire, voilà.
Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement d'écrire ?
Je sais même pas exactement.
Ça s'explique pas.
C'est venu. Ouais, d'accord. C'est un truc. Voilà, je peux pas l'expliquer. En tout cas, ce qui a déclenché l'écriture, en tout cas là, c'était voilà pour ma belle-mère. Pourquoi j'ai voulu écrire, je ne sais pas.
En fait, non, c'est au fond de toi, c'est au fond de tes...
Ouais, carrément.
Et concrètement, justement, l'écriture, ça s'est passé comment pour toi? Comment on fait pour écrire un livre? En fait, par rapport à ça, moi, je pense, je t'ai déjà dit en off, j'écoutais par exemple l'autre jour une interview de Joël Dicker qui explique que lui, il se lève à 4h du matin et il écrit tous les jours de 4h à 8h30, 9h le matin. Tout le monde a ses propres techniques. Est-ce que toi, tu en as une ou en tout cas, comment s'est passée l'écriture? De la cabine.
Alors effectivement, chacun sa méthode. Je suis pas sûre qu'il y ait une solution miracle qui peut convenir à tout le monde. Moi, je l'ai fait comme je l'ai senti, en fait. Ce qui était un peu spécial, c'est que je l'ai dit à personne. Donc forcément, quand j'écrivais, fallait que je le fasse quand j'étais toute seule et que personne ne
d'accord,
me voit.
En cachette.
Forcément, en cachette. C'est un peu ça l'idée, un
d'accord.
peu en cachette.
Okay.
Pourquoi je l'ai pas dit? Peut-être parce que entre guillemets, j'en avais honte ou je savais pas ce que ça donnerait, donc voilà, c'était...
Un petit peu la peur du regard des
ouais,
autres
probablement, donc voilà, je l'ai fait pour moi en secret, voilà. Comment je m'y suis prise? Alors, j'avais par contre pas d'horaire fixe, rien du tout. C'était quand j'avais le temps, quand je pouvais. Surtout mes trajets en voiture, dès que j'avais du temps libre, etc. Je pensais à tous mes personnages, à ce que j'allais leur faire faire,
d'accord,
etc.
D'accord, tu réfléchissais.
Ouais, parce qu'en fait, je partais pas au hasard quand j'écrivais. Mon histoire, elle... s'écrivait pas au fil de l'écriture, justement.
D'accord,
elle
okay.
était déjà construite bien avant. Quand j'ai commencé à rédiger, tous mes personnages étaient déjà bien construits dans mon esprit, la chronologie des événements, tout
d'accord,
était déjà...
Tout était déjà
je
anticipé.
Savais où j'allais, je
d'accord.
savais comment serait la ouais. fin, etc. Ouais. Donc voilà, donc tous mes trajets en voiture, tout, voilà, je pensais à tout ça, je construisais mes personnages. Et quand
d'accord.
je me mettais à écrire, ben, je me mettais à écrire donc sur mon ordinateur quand je faisais des insomnies, par exemple, régulières, parce que cette période-là est un petit peu compliquée avec ma belle-mère qui était malade. Quand j'ai dit, je suis dentiste, donc au cabinet, entre deux patients, ou quand il y en a un qui venait pas, ou quand il y avait une annulation, mm-hmm. dès que j'avais un peu de temps, voilà, j'écrivais, mais ce que j'avais déjà imaginé, en fait,
ce que j'avais déjà dans la tête.
Et je pouvais
d'accord.
rester une semaine, 15 jours sans écrire, parce que j'avais pas le temps, parce que période où on est trop okay. chargé, on a une vie à côté, je pouvais pas, ouais. et puis il y a des périodes où j'écrivais énormément, plus de temps.
Okay. Donc, alors justement, par rapport à ça, alors, est-ce que... Mais alors, tu t'es formée? Est-ce que t'as fait quelque chose en particulier
non,
pour te former à l'écriture ou...
Rien du tout, pas comme ça qu'il
c'est
faut faire, hein. Peut-être qu'il faut faire des ateliers d'écriture, etc., pour savoir comment faire. Non, c'est venu tout seul, alors... Quand on écrit, on se rend compte de ce qu'on a appris, finalement, de l'importance de ce qu'on a appris quand on était au collège, au
d'accord.
lycée. Il y a plein de choses qui nous reviennent. On se dit, ah oui, c'est vrai, il y a un prof qui avait dit ça, là, je le mets en application, en fait, il avait vraiment raison. Et puis, finalement, j'avais quand même écouté, effectivement, Bernard Werber qui faisait un atelier d'écriture, mm-hmm. en fait. Donc, je l'avais écouté il y a un bon moment de ça, parce que c'est un auteur que j'adore. Et puis, mais c'est tout, je l'avais pas réécouté là au moment d'écrire, en fait. Mais je pense que inconsciemment, j'avais intégré ce qu'il avait dit. Et
ce que t'avais entendu.
Ouais, carrément, j'avais retenu un petit peu finalement.
Mmh. Alors là du coup j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Tu parlais tout à l'heure du fait que t'écrivais un petit peu en cachette de ta famille notamment. Du coup comment t'as réussi à ce moment-là, pendant cette période-là, à concilier la vie professionnelle, la vie privée et puis ben, ce temps d'écriture, comment t'as réussi à concilier tout ça?
Ben, dès que j'avais un petit temps mort, en fait, j'écrivais plutôt que de faire autre chose, qui parfois sert à rien. Regarder la télé, ou enfin voilà, je lisais. Pourtant, je lisais encore beaucoup. J'ai continué à lire tout le temps de l'écriture, en fait. Je pense que c'est important de continuer à s'ouvrir sur le reste, justement, avoir d'autres idées. Mais voilà, après, comment j'ai réussi, je sais pas. Ça s'est fait.
Ça s'est fait naturellement.
Ça s'est fait.
Alors là, tu viens de parler justement d'idées, donc tu me tends la perche pour la question suivante. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver face à une page blanche ou enfin, en tout cas, pas une page blanche, puisque toi, tu réfléchissais avant d'écrire, mais à un moment donné, te retrouver à certains moments en manque d'inspiration ou pas?
Bah, étant donné qu'effectivement, comme je disais, j'imaginais toute mon histoire et mes personnages avant d'écrire, quand j'écrivais, Je savais ce que j'allais écrire. Parfois, c'est plus dans la formulation de la phrase. D'accord. Comment je vais le formuler, comment je vais le dire. Mais sinon, non, j'ai pas eu ce problème puisque je savais ce que j'écrivais.
Ok. Et du coup, tu t'es aidée pour ces aspects-là? Par exemple, comment formuler telle phrase
Ou c'est pareil, ça vient. C'était plus comment trouver les mots, quels mots utiliser, quelle formule utiliser. Après, merci Internet, merci Google, merci pour les synonymes, pour la conjugaison, pour des petits trucs finalement qu'on oublie ou sur lesquels on a des doutes, mais sinon, non.
Et donc, tu nous disais tout à l'heure qu'à l'origine, écrire un livre, c'était un de tes rêves, et puis donc, tu l'as fait au moment de la maladie de ta belle-mère. Donc, si je comprends bien, donc, c'était un cadeau, tu l'as dit tout à l'heure pour elle. Est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, quand tu as écrit, tu savais pas si tu allais publier ton livre ou est-ce que c'était déjà très clair dans ta tête de ce que tu voulais en faire?
Alors, c'était très clair dans ma tête de ce que je voulais en faire, c'est que je voulais me dépêcher entre guillemets de le finir pour pouvoir lui offrir pour qu'elle l'ait à temps parce que je ne savais pas comment évoluerait sa maladie. Mais à aucun moment j'avais imaginé le publier, c'était vraiment quelque chose de personnel. Alors, il n'y a rien de secret, rien de personnel dans l'histoire, dans le livre, mais voilà, c'était vraiment pour elle.
Un projet personnel.
Pour elle. Après, oui, j'avais effectivement envisagé de le partager avec, avec mes proches, mais pas au-delà.
Pas en tout cas de le publier. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de le publier? Parce qu'aujourd'hui, le livre est bel et bien publié, il est disponible à la vente, tu participes à de nombreuses séances de dédicaces, donc aujourd'hui, il est bel et bien présent et il fonctionne plutôt bien de ce que j'en sais. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de le publier?
Alors, en fait, quand ma belle-mère est décédée au mois de mars, c'est là que mon mari m'a dit « Mais écoute, pour elle, en son souvenir, il faut aller plus loin. Il faut essayer de le faire publier, pourquoi pas ?» Alors, j'avais des amis, j'ai une amie qui écrit, une autre qui a publié son journal par rapport à sa maladie. J'avais plusieurs exemples, et là il me dit « Écoute, elles l'ont fait, pourquoi pas toi ?»
Et alors, tu as répondu quoi à ça?
J'ai dit
«
Ben, oui, t'as raison, pourquoi pas moi? Après tout, on va tenter. »
C'est une bonne question à se poser, c'est vrai. Quand on a envie de réaliser ses rêves et qu'on voit d'autres
le faire,
réaliser leurs rêves, on peut se poser la question de pourquoi pas moi finalement. Voilà. Et donc c'est ça qui t'a donné envie de le publier?
C'est lui qui m'a poussée, je suis pas sûre, je pense pas que je l'aurais fait toute seule, j'aurais pas eu l'idée, je pense parce que peut-être manque de confiance en moi, pas consciente de la valeur de ce que j'avais écrit finalement.
De la qualité. Et alors tu peux nous expliquer comment ça se passe à partir du moment où t'as ton livre là, ton roman il est écrit, tu te dis bon bah finalement c'est vrai, pourquoi pas moi, je vais le publier. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment ça se passe en fait à partir de là?
Alors comment ça se passe? Eh ben j'ai justement contacté mes deux amies pour savoir comment elles avaient
comment
fait.
Comment ça se passe?
Comment ça se passe? Voilà. D'accord. Donc une qui a publié déjà plusieurs romans qui marchent quand même très bien. Alors elle par contre, elle est publiée. Il y a plusieurs façons d'être publiée en fait. À compte d'éditeur, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui va tout financer, mais dans ce cas-là, on cède complètement nos droits. Donc là effectivement, il y a une large diffusion puisque c'est l'éditeur qui s'occupe de tout.
Ensuite, donc là, c'est par exemple les romans les plus connus.
Oui, tout ce qui est connu. Tout ce qui est connu, c'est ça. C'est à compte d'éditeur, voilà. Ensuite, il y a le compte d'auteur, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on fait appel à des petites maisons d'édition qui se chargent de tout ce qui est mise en page, etc. Mais c'est l'auteur qui va financer tout ça.
Okay.
Et puis après, le livre est diffusé, mais à plus petite échelle, puisqu'il n'y a pas un budget pub, etc. énorme.
Etc.
Exactement.
D'accord.
Et ensuite, la troisième façon, ça va être... l'édition, l'auto-édition en fait. Dans ce cas-là, il n'y a même pas une maison d'édition, il n'y a rien du tout. C'est l'auteur qui fait tout, qui cherche un graphiste pour la couverture, pour la mise en page, un correcteur, etc., etc., qui doit faire toutes les démarches pour être référencé à la Bibliothèque nationale de France. Et après, il cherche un imprimeur qui imprime son livre. Donc là, par contre, là, au niveau diffusion, c'est encore plus compliqué, je dirais, parce qu'il faut vraiment démarcher par soi-même pour tout. Donc voilà, donc il y avait ces trois options-là.
Et ça, ces options-là, tu les connaissais avant?
Non, je suis allée voir sur Internet pour me renseigner, savoir comment ça se passait.
Comment ça fonctionne.
Et donc après, j'ai appelé mes deux amies, savoir comment elles avaient fait. Donc celle qui, effectivement, est publiée à compte d'éditeur, me racontait qu'effectivement, il fallait beaucoup de patience, parce qu'il faut envoyer. Si on n'a pas un nom, si on n'a pas ci, si on n'est pas pistonné, c'est pas forcément facile.
D'accord.
Alors, à moins d'avoir écrit un formidable chef-d'œuvre, voilà, où là, effectivement, on peut attirer l'attention, mais c'est très long parce qu'il y a plusieurs comités de lecture, etc., avant d'être sélectionné. Bon, ça, c'était la première option. La deuxième option, effectivement, mon autre amie, elle, était à compte d'auteur, donc elle avait payé une partie. Et puis après, voilà, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Donc, moi, dans ce que j'avais fait et dans ce que je voulais, j'avais pas le temps et l'énergie de me battre pour être publiée à compte d'éditeur, et aussi si je, il n'en vaut pas la peine, j'en sais rien, voilà. Donc j'ai laissé tomber cette option-là et j'ai directement envoyé à différentes petites maisons d'édition pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et donc après, rapidement, j'ai eu des retours très positifs.
Super.
Ce qui était sympa, c'est qu'il y avait souvent un petit mot avec qui décrivait un petit peu ce qu'ils avaient lu. Donc je me dis, bon, ok, ça a quand même été lu, ils ont quand même compris ma démarche, etc. Donc c'était sympa. Et puis après, bah voilà, en fonction des différents contrats que j'avais reçus, j'ai sélectionné ce qui me convenait le plus, ce qui fait que ça a été assez rapide.
Et donc aujourd'hui, ton éditeur, c'est
Les éditions Beau Repère.
Alors ça, c'est pour la partie édition, mais une fois que c'est édité, il y a la partie promotion. Aujourd'hui, comment
ouais,
ça se passe
ça
pour
demande
faire la promotion
un
parce qu'en plus, c'est pas forcément ton métier. À la base,
ça.
Tu l'as dit tout à l'heure, t'es dentiste, donc c'est encore autre chose. Il y a le métier d'écrivain, et puis il y a un métier, je sais pas si on peut dire commercial, c'est pas tout à fait ça, mais
si,
en tout
c'est
cas,
un peu ça.
Tu dois faire la promotion toi-même de ton livre, c'est ça ?
C'est ça.
Comment ça se passe ?
Alors c'est vraiment particulier, alors ça c'est encore un autre monde.
D'accord.
C'est intéressant aussi, hein. C'est vraiment assez sympa de voir comment ça se passe. Donc effectivement, moi l'éditeur en fait s'occupait quand même de mettre le livre à disposition sur internet, la Fnac, Amazon, etc. etc. Et après par contre, si on veut qu'il soit présent en boutique, il faut aller démarcher, il faut y aller en fait pour se faire connaître, et les libraires achètent le livre et le mettre en rayon en fait.
En rayon,
Que ça soit dispo. Et c'est là qu'effectivement c'est un autre monde où il faut se vendre entre guillemets, enfin voilà, se vanter le produit, expliquer, etc.
Ouais.
Alors c'est loin de mon monde et de ma façon de faire, mais voilà, on apprend et puis finalement ça se fait assez bien, il y a un bon accueil. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir qu'on va se présenter, on laisse un dossier de presse, les gens lisent et puis finalement ils sont intéressés et puis ça se fait bien.
Donc aujourd'hui tu te sens à l'aise dans cette... Dans cette partie-là
Oui, ça va. Ouais, ça va, ça se passe bien, il y a un bon accueil. Bon, maintenant, je reste quand même assez en local parce que j'ai pas le temps d'aller partout, de faire le tour de France, forcément. Mais voilà, non, ça se passe bien.
Et aujourd'hui, quels sont les retours que tu as? Comment il est accueilli, ton roman les lecteurs?
Oui, c'est ça. Alors, j'ai énormément de retours des lecteurs, ça, je trouve ça génial. Mmh. Alors, au début, les premiers retours sont plus mes proches, puisqu'il a été diffusé auprès de mes proches en tout premier. Donc bon, forcément, ils sont pas forcément, enfin, dans mon idée, pas forcément très objectifs. Et puis finalement...
Et pourquoi pas ?
Pourquoi pas,
finalement.
Pourquoi pas ? Non, mais peut-être, mais on peut toujours
là,
avoir un doute.
Question,
on
ouais.
peut toujours avoir un doute.
Bien, bien sûr.
Et finalement, petit à petit, des inconnus qui nous écrivent. Alors forcément, c'est surtout des gens que j'ai rencontrés dans des séances de dédicaces, des salons, etc. Mais voilà, on a des retours et les gens ont l'air d'apprécier, en tout cas. Bon, après, ceux qui n'aiment pas, ils ne m'écrivent pas, ils ne me le disent pas. Mais
Et dans l'absolu, peut-être qu'il y en a et c'est pas grave.
Ah mais non, on ne peut pas plaire à tout le monde,
bien sûr.
Clairement. Donc mais globalement, j'ai des retours très positifs, donc ça fait plaisir, c'est motivant. On se dit, bon voilà, les gens ont compris ce que j'ai voulu dire et sont bien rentrés dedans, exactement,
d'accord.
Ont compris mon esprit et voilà, non, c'est top.
Il y a une question aussi qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que dans ton parcours, alors pas forcément dans ton parcours d'écrivain là aujourd'hui, mais même de manière générale en fait, est-ce que dans ton parcours tu as une personne, tu as un mentor ou une personne en particulier qui a été une source d'inspiration pour toi ou un peu une référence ou pas du tout hein,
J'ai pas vraiment de mentor, je dirais, par contre effectivement je suis une grande lectrice donc... ce serait plus des auteurs comme Bernard Werber, effectivement. J'aime beaucoup aussi Justin Garner, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup lire. Bon, ce serait plus des écrivains, effectivement, qui m'ont donné envie, dans ce domaine-là,
d'accord.
En tout cas. Mais après, voilà.
Et si tu devais partager aujourd'hui une idée, ou en tout cas ta philosophie de vie, quelque chose d'inspirant pour les auditeurs, parce que tu sais que le principe de ce podcast, c'est vraiment d'avoir une histoire de vie à raconter, et que cette histoire, elle soit inspirante pour les auditeurs, pour qu'ils puissent transposer eux-mêmes dans leur propre histoire de vie, finalement. Si on devait, en gros, retenir une idée de ton parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs ?
De profiter et de pas attendre. D'aller au bout de ses rêves, en fait, sans se dire « je le ferai plus tard, un jour j'aurai le temps, un jour je le ferai ». De pas attendre, en fait, quand on peut... tout de suite se lancer, et quand on veut on peut, de toute façon il y a toujours moyen, et de pas se mettre de limites, de freins, et le pourquoi pas moi dont on parlait tout
d'accord.
à l'heure, ouais.
Se poser cette question là,
ouais,
pourquoi pas moi
pourquoi j'attends et à quoi ça sert d'attendre, faut profiter maintenant, faut y aller maintenant et aller au bout de ses rêves, ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on a essayé et voilà, mais pas attendre.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement parfois on se met des barrières déjà soi-même parce qu'on n'ose pas finalement, quand on se pose la question, bah, pourquoi pas moi, bah, en fait, finalement, oui, c'est vrai, pourquoi pas moi. C'est important de se réaliser et de réaliser ce genre de choses, finalement.
Oui,
et que ça vaut peut-être le coup de faire
parfois le petit investissement financier peut, je pense, être tellement bénéfique au niveau développement personnel et bien-être que ça vaut parfois le coup de le faire. Maintenant, il faut pouvoir aussi. Hein.
Ouais, bien sûr. Bien écoute, c'est vraiment, en tout cas là moi de t'entendre parler, j'ai juste envie en sortant de là de me dire ok c'est quoi le prochain rêve que je vais réaliser parce que ça donne vraiment envie, donc je te remercie d'avoir partagé tout ça avec moi et en tout cas avec nous. Avant de finir j'aurais quand même encore deux petites questions. La première c'est est-ce que tu aurais une source d'inspiration à donner, je sais pas, un livre, un film, une personne ou... dans tous les livres que tu as lus, par exemple, est-ce qu'il y a certains livres particulièrement qui t'ont marqué et que tu voudrais recommander aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui ? C'est difficile d'y répondre.
Ah, c'est carrément dur. Il y en a tellement. Difficile.
En tout cas, toi, qu'est-ce que si tu devais retenir un ou deux, trois livres
Un livre, eh ben, lisez La Cabide. Hein.
D'accord, ok.
Il y a plein de choses dedans. En fait, dedans, il y a plein de citations. En début de chaque chapitre, je mets une petite citation. Rien que ces petites citations peuvent être inspirantes. Mais là, vous dire un truc comme
non,
ça, c'est pas possible.
D'accord. Alors justement, pour les gens qui voudraient se procurer La Cabide, oui. Comment elle est accessible aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut se la procurer?
Alors, on peut se la procurer sur Internet, sur Amazon, sur le site de la FNAC, sur le site des éditions Beau Repère directement. Après, dans certains magasins, la liste est longue, je vais pas vous
d'accord.
faire le détail.
Okay.
Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, La Cabine de Julie, et là je détaille tous les points de vente.
Alors,
et vous pouvez rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci.
C'était là une question que j'allais te poser aussi, si les auditeurs veulent te suivre, voir ton actualité, etc. Comment on peut te suivre aujourd'hui
ben
sur
voilà.
les réseaux sociaux, par
ouais,
exemple.
Ouais, c'est ça, sur la page Facebook, La Cabine de Julie. Je mets à peu près tout ce qui se passe, voilà, toutes les infos, les séances de dédicaces, etc.
Ok, alors j'ai une toute dernière question pour toi, et du coup, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit, en écrivant, je me suis rendu compte que finalement, certains profs avaient dit ça ou ça au collège, oui. et ça servait. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'on m'avait appris en français au collège ou au lycée, où on me disait toujours, une conclusion, il faut ouvrir sur la suite,
oui,
en fait, finalement.
Exactement.
Donc là, du coup, j'ai juste envie d'ouvrir avec toi aussi, et te demander, mais c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a une suite de La Cabide ? Est-ce qu'il va y en avoir une ou pas du tout ? Ou un autre roman ? Enfin, voilà. C'est quoi la suite ?
Alors, peut-être... Alors, une suite, c'est difficile de faire une suite avec les mêmes personnages, je dirais, sans que ça soit redondant, toujours un peu la même chose, voilà. S'il y a suite, c'est pas impossible, parce que je peux reprendre mes trois petites héroïnes, mais dans une dizaine d'années, peut-être.
D'accord.
Mais oui, peut-être autre chose, parce que, ouais, tous les retours positifs, ça donne envie de continuer, c'est
d'accord.
motivant.
Okay.
Et puis, j'avais tellement aimé écrire que, oui, je vais continuer à écrire. Publier,
bien.
Je sais pas, mais écrire, oui, oui, je vais continuer, de toute façon.
Super. Bah écoute, en tout cas, ça c'est une excellente nouvelle, je trouve. Moi, personnellement, j'ai hâte de découvrir la suite. Donc, bah écoute, je te remercie. Merci du temps que tu as bien voulu me consacrer sur ce podcast. Et puis, écoute, je te donne rendez-vous peut-être... Pour le prochain livre, est-ce que ça
marche ?
Rendez-vous
pas de
est pris ?
Ok, rendez-vous.
Super. Merci beaucoup, Julie.
De rien, Catherine.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Bonjour à tous. Peut-être que, comme Julie, vous avez un rêve, ou plusieurs même, je dirais inavoué. Peut-être que vos peurs ou certains freins vous empêchent de les réaliser, ou peut-être avez-vous tout simplement du mal à les identifier. La première chose que je voulais vous dire est que rêver est une source importante de bonheur. Il est important de rêver. Cela permet de développer la dopamine et la sérotonine, qui sont tout simplement les hormones du bonheur. C'est donc prouvé par les neurosciences qu'il est bon pour la santé mentale et la santé physique de rêver. Et là, je parle bien sûr des rêves éveillés. Ne soyez donc pas honteux ou gênés de vous surprendre, par exemple, en train de vous imaginer à gravir le Mont Blanc ou devenir une star, ou même publier un livre, peu importe. Dites-vous bien, juste qu'à ce moment-là, vous êtes en train de prendre soin de vous. Pourtant, très tôt dans notre système d'éducation classique, nous sommes soumis au principe de réalité, au principe de prudence, de ce qu'il est convenable de faire ou raisonnable, et nous sommes justement très souvent freinés par des injonctions diverses et variées. Alors l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui est tout simplement de réaliser la liste de vos rêves. Sans limite, vraiment, prenez une feuille blanche ou un beau carnet si vous préférez,
et laissez-vous aller. Inscrivez tout ce qui vous passe par la tête, même les choses qui vous semblent les plus folles, et surtout sans limite de nombre. Évitez les injonctions du style « ce n'est pas possible », « je n'ai pas le temps », « je n'ai pas d'argent ». Écrivez vraiment la liste par excellence. Qu'est-ce que vous risquez ? Au pire, pas grand-chose, peut-être de perdre un peu de temps à la faire. Quoique, je n'appellerais même pas ça une perte de temps, car même si ces rêves ne se réalisent pas, vous aurez au moins passé quelques minutes à penser à des choses positives et agréables, et d'ailleurs, du coup, vous aurez sûrement déclenché vos fameuses hormones du bonheur. Si besoin, n'hésitez pas à y revenir, il est possible que vous n'arriviez pas à les compléter en une seule fois et que vous ayez besoin d'y revenir de temps en temps ou en plusieurs temps. Peut-être que certaines idées viendront ultérieurement ou viendront grâce à des sources d'inspiration, et je dirais même que de toute façon, cette liste peut être amenée à évoluer au fil du temps. En tout cas, une fois que vous avez votre liste, vous pouvez aussi classer vos rêves par ordre de priorité. Qu'est-ce qui vous fait vraiment envie ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux ? Je tiens à préciser qu'il est important de réaliser cet exercice à l'écrit, et pas juste mentalement. Tout simplement parce que le fait d'écrire est vraiment très puissant pour commencer à vous mettre en dynamique, à aller de l'avant, et va vous permettre de réfléchir, de vous poser des bonnes questions, d'y revenir plus tard, et surtout de voir ce qui va se passer, ce qui va se réaliser, ce qui va avancer. Une fois cette liste accomplie, vous pouvez vous interroger sur ce qui bloque. Qu'est-ce qui dérange dans la réalisation ? Quels sont les obstacles ? Quels sont les freins que vous rencontrez ? Et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Vous pouvez aussi pour ça très bien reprendre la question de Julie Dubois-Dumont. Et pourquoi pas moi ? Pourquoi les autres et pas moi ? Qu'est-ce que je risque au final ? Pas grand-chose. Souvent, dans les freins que vous allez retrouver, cela peut être la peur de l'échec, le manque de temps, le manque de moyens financiers, bref, peu importe. Par rapport à la peur de l'échec, je vous renvoie à l'épisode 1 de ce podcast dans lequel j'ai interviewé Benoît Dolez, qui est un sportif de haut niveau et qui nous explique justement comment grandir finalement d'un échec, comment en faire quelque chose de positif. Pour les autres freins que vous pouvez rencontrer, très souvent ce sont les notions de temps et de moyens financiers. Interrogez-vous vraiment sur ces freins que vous vous fixez vous-même. Posez-vous les vraies questions, soyez honnête avec vous-même, car ayez bien conscience que tout est une question de choix. Par exemple, pour le temps, nous sommes tous égaux face à cela et nos journées durent pour toutes et tous 24 heures. C'est donc à vous de décider comment vous voulez occuper votre temps, quelle part de ce temps vous voulez consacrer à la réalisation de vos rêves et de vos projets. Je ne dis pas bien sûr qu'il est question de tout plaquer ou de délaisser complètement sa vie professionnelle ou sa vie de famille pour se consacrer à la réalisation de ses rêves ou en tout cas une majeure partie de son temps à cette réalisation. Je dis juste que vous pouvez décider de consacrer le temps qui vous convient pour y arriver progressivement. Peu importe le temps que ça prendra, le chemin à parcourir est aussi une source de bonheur, encore plus même que l'atteinte de l'objectif en lui-même. Si déjà donc vous parvenez à d'une part écrire la liste de vos rêves et ensuite d'identifier les freins que vous vous fixez, il est fort probable que ce travail déclenche déjà à lui tout seul des prises de conscience qui vont sûrement, en tout cas je vous le souhaite, vous permettre d'aller de l'avant pour la réalisation de certains d'entre eux. Et enfin, pour finir, je vous invite à en parler ouvertement avec votre entourage, avec des personnes de confiance bien entendu. En tout cas, vous verrez que le fait d'échanger avec d'autres peut vous permettre de décoincer certaines situations, de vous ouvrir des opportunités, des rencontres et parfois de vous amener justement vers la réalisation de vos rêves. Avant de vous quitter, je tenais simplement à vous rappeler, comme à chaque épisode, que si vous avez besoin d'un accompagnement pour amorcer des changements dans votre vie, prendre des décisions ou passer à l'action, je vous invite à me contacter pour que l'on puisse travailler ensemble. Et pour cela, vous trouverez l'ensemble de mes coordonnées sur le site www.cbcoach.fr. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.